Bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter Michel Abitbol, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, orientaliste spécialisé dans l'étude des relations entre les Juifs et les Arabes, et qui a publié l'histoire des Juifs de la Genèse à nos jours en 2013, le passé d'une discorde juif et arabe du 7e siècle à nos jours, en 1999, Juifs et Arabes au XXe siècle, en 2007. Michel Abitbol pense que les Juifs sont un peuple-monde qui a traversé le temps et l'espace, a parlé dans plusieurs langues, développé des traditions populaires distinctes, des modes de vie variés avec des valeurs communes issues de la loi religieuse, la halakha, avec une même conscience depuis le début du Second Temple, une même conscience historique. Cela embrasse le présent, le passé et se projette dans l'avenir. Même si le livre est un regard tourné vers le passé, c'est l'histoire d'un peuple dont l'histoire se confond avec celle de l'humanité tout entière. La sortie d'Égypte est l'acte de naissance du monothéisme mosaïque. Elle n'est pas incarnée par un homme, même de la nature de Moïse, mais par un peuple. On peut repérer quelques moments importants dans l'histoire de ce peuple, Yohanan ben Zakkai et ses disciples qui sont réunis à Yavné en 70 après la destruction du Second Temple et qui fondent une nouvelle religiosité juive, une identité collective, politisée et ne reposant plus que sur l'enseignement de la Torah. La loi juive. Judas Halevi, l'auteur du Kuzari en 1140, explique aussi que Dieu n'a pas été révélé à un individu, mais à tout un peuple. Des centaines de milliers d'hommes ont été témoins de l'épisode du Sinaï. Le judaïsme est donc originellement collectif. L'apanage d'une nation n'est pas celui d'un seul être, fut-il aussi exceptionnel que Jésus ou Mahomet. La pensée juive post-médiévale ne connaît pas la séparation entre culture religieuse et culture séculière. Elle ne peut pas imaginer une identité juive qui ne soit pas ancrée entièrement dans le judaïsme. La diffusion du livre imprimé révolutionne la vie juive du XVIe au XVIIIe siècle et homogénéise les rites, les sources de savoir et les méthodes d'enseignement. Désormais, ce n'est plus le maître, mais les textes qui ont le dernier mot. En outre, les femmes ont accès au savoir religieux. Heinrich Kretz, 1817-1891, met en avant la dimension politique du judaïsme, centrée sur Israël, la Torah et le peuple d'Israël. Comme le dit Fernand Braudel, les Juifs, comme de fines gouttelettes d'huile éparpillées sur les eaux profondes des autres civilisations, se sont adaptés partout. Les Juifs sont un peuple-monde, et la place que le monde fait à ce peuple est un problème. C'est ce qu'on retrouve avec la place faite aux Juifs dans le monde arabo-musulman. On constate la quasi-disparition de ces Juifs dans ce monde, malgré leur présence bimillénaire. Les chiffres qui datent de 2007 dans le livre « Juifs et Arabes au XXe siècle » ne sont plus actuels, mais à l'époque, il y avait 65 000 Juifs dans ce monde arabo-musulman, dont 6 000 dans les pays arabes. L'intrication politique et religieuse est forte. Depuis le début même de l'islam, où des Juifs étaient accusés d'avoir fait disparaître le véritable texte de la Torah, certains se convertissent à l'islam et jouent un rôle important dans le commentaire du Coran. L'âge d'or de l'Andalousie, où coexistent différentes religions, est une idéalisation, même si cela a existé. Le refus des Juifs d'admettre la révélation de Mohammed parcourt cette longue et difficile période. La discorde, qui signifie le dissentiment violent et durable entre deux ou plusieurs personnes, qui les porte à l'inimité et à la haine, dans la mythologie grecque, il s'agit de Eris, qui est la déesse de la discorde, et qui se venge de ne pas avoir été invité aux noces de Tétis et Pélée en jetant dans l'assistance une pomme d'or portant l'inscription « Pour la plus belle », ce qui provoqua un grand tumulte et la guerre. ses cheveux sont des serpents, tandis que le sang coule de ses habits. Elle tient une vipère à la main. La discorde entre les Juifs et le monde arabo-musulman, c'est une intrication théologique et politique inextricable. On peut reprendre ce que dit Michel Abitbol dans son article « De la coexistence à la montée des antagonismes du Maghreb à l'Orient » dans le livre collectif sous la direction de Abdelwahed Medeb et Benjamin Stora, « Histoire des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours ». Ni conséquence de machination diabolique, ni simple déplacement de personnes en quête de meilleures conditions de vie, la fin de l'histoire des juifs en terre d'islam s'inscrit dans le vaste mouvement des populations qui depuis plus d'un siècle suit une seule et même direction, l'homogénéisation ethnique, culturelle et religieuse du monde arabo-musulman. Sous la poussée uniformatrice de l'État-nation et du nationalisme, cet espace jadis pluriel se vide en quelques décennies de ces minorités arméniennes, grecques, assyriennes, coptes, maronites, juives ou kurdes, auxquelles il faudrait ajouter aussi les pieds noirs d'Algérie et paradoxalement les réfugiés palestiniens de 1948. Dès lors, Maghreb et Mashrek ne sont plus depuis fort longtemps cette tour de Babel bigarrée et pluriethnique qui enchantait encore les ethnologues au début des années 1960. Je donne la parole à Michel Abitbol.
Démarche tactique des Palestiniens, elle exprime véritablement la pensée profonde de l'islam. L'islam selon lequel les peuples n'existent pas en tant que tels, l'islam qui ne reconnaît que la division entre religions et non pas entre peuples. Et d'une certaine manière, on peut dire que M. Bibi Netanyahu, en voulant forcer les Palestiniens à reconnaître la dimension nationale du peuple juif, et du en fait, comme s'ils voulaient les forcer à changer ou à modifier un peu leur vision théologique de l'histoire. Et l'histoire, proprement dite, n'étant jamais avare de surprises, il se trouve que c'est un juif converti à l'islam, qui, c'est l'Irakien Ahmed Sousa, de son vrai nom Nissim Sousa, et c'est devenu Ahmed Nissim Sousa, c'est lui qui a développé le point de vue arabe de la façon la plus achevée que l'on connaisse, et il l'a développé il y a 50 ans. Et ceux d'entre vous qui ont lu Zand pourraient par exemple trouver, à la lumière de ce que je vais vous dire, que toutes les grandes idées de Zand sont déjà dans ce livre d'Ahmed Nissim Sousa, qui a été publié il y a 50 ans. Lui-même, donc, est né à Hila, en Irak, en 1902, dans une famille juive irakienne très imprégnée de culture arabe, et il a fait un long séjour, et c'était un ingénieur, il a fait un long séjour à Chicago, et à Chicago, il a épousé une chrétienne, et c'est de retour de son séjour à Chicago qu'il s'est converti. Et Sousa commence par rejeter la vision, disons, palestinocentriste de la Bible. Pour la Bible, comme vous savez, tout s'est passé à Eretz Knaan, le pays de Canaan, la Bible, la Palestine. Pour Sousa, comme pour les Arabes d'ailleurs, c'est la péninsule arabique, c'est l'Arabie d'aujourd'hui qui est le centre, l'épicentre des grands bouleversements démographiques, écologiques qui ont façonné l'histoire du Proche-Orient depuis toujours, depuis l'Antiquité. Et donc, Sousa fait venir, par exemple, d'Arabie les premiers habitants de Palestine, les Cananéens. Les Cananéens sont des Arabes. Il fait aussi venir d'Arabie les Yéboussites. Les Yéboussites, c'est ce peuple qui habitait Jérusalem, n'est-ce pas, jusqu'à l'avènement de David. Arabes aussi sont les Amorites, ceux qui vivaient sur l'Euphrate, sont les Assyriens. Et même Abraham est un Arabe, et il continue encore les Sumériens, les Akkadiens, les Assyriens, et jusqu'aux Hyksos, qui ont envahi l'Égypte. Et puis, pour terminer, les Carthaginois aussi ont du sang arabe, et les Philistins, ainsi de suite. Donc, la Palestine aurait été de tout temps l'épicentre de l'histoire de l'Antiquité. Et c'est la Palestine arabe. Elle a servi de terre de passage à Abraham et à sa descendance, dont les enfants de Jacob, qu'il reconnaît bien entendu, mais ces enfants de Jacob, c'est ce qu'il explique, ils ne sont pas nés en Palestine, ils sont nés du côté de Babylone, à Mossoul, du côté de Mossoul, en Mésopotamie. Ils ont quitté d'ailleurs rapidement la Palestine, puisque les Juifs, et c'est la thèse centrale, les Juifs n'ont jamais fait souche en Palestine, et ces enfants de Jacob, donc ils sont partis en Égypte. Et ça, on le sait. Et puis, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce raisonnement, c'est que pour Sousa, il n'y a pas de continuité historique entre l'époque des patriarches et l'époque de Moïse. Il reconnaît Moïse, et pour lui, les Hébreux en tant que tels n'ont commencé à exister qu'à partir de Moïse, que depuis l'époque de Moïse, et donc les patriarches, c'est autre chose. Et puis, mieux encore, c'est le patriarche Abraham qui a fondé la Kaaba, à savoir que même le site le plus important de l'islam a été fondé par Abraham, et alors que dans la tradition juive, par exemple, c'est Isaac qui est le fils aîné, dans la tradition arabe, c'est Ismaël qui est le fils aîné. Donc tout ce que nous disons, nous, sur la filiation directe, et puis sur la bride et sur l'alliance de Dieu avec Abraham et ses enfants, ben, les Arabes, les Palestiniens, l'Islam, sous ça le premier, le transfère ce récit sur la filiation entre Abraham et Ismaël. Mais cela, ce n'est pas le plus important dans tout ce raisonnement. Donc, les Hébreux commencent avec Moïse, ils traversent le Sinaï, ça c'est vrai, et dans le Sinaï, et là on revient à ce que Max disait tout à l'heure, ils ont reçu vraiment la vraie Torah. La Torah du Sinaï, qui est la vraie Torah. Mais cette vraie Torah, cette Torah véridique, authentique, va disparaître. Elle va disparaître pendant la destruction du premier temple. Et à cause du chaos qui s'est ensuivi, etc. Et donc, et les Juifs vont remplacer cette Torah par une nouvelle, qui est un faux. Et on utilise le terme arabe de tahrif. Ça veut dire c'est un faux. C'est un faux. Pourquoi c'est un faux ? Parce que d'abord, Dieu apparaît comme un être humain, alors que Dieu ne peut pas être un être humain. Et puis, cette nouvelle Torah ne parle pas du tout de Mohamed, alors que Mohamed, il était dans les desseins de Dieu, n'est-ce pas ? Et puis encore, on parle de termes qui n'ont rien à voir dans le monothéisme, comme la terre promise, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un faux, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, entre judaïsme et islam, il n'y a jamais eu de controverse théologique. Alors qu'entre le christianisme et l'islam et le judaïsme, il y a toujours eu des controverses théologiques, non pas parce que l'islam soit plus tolérant ou pas, mais tout simplement parce que l'islam ne reconnaît aucune valeur intrinsèque à la Torah juive qui est un faux. Donc, reprenons le fil de l'histoire, d'après M. Sousa, les juifs, qu'il appelle les mosaïstes, étaient très peu nombreux, insignifiants même en Palestine, pour pouvoir assimiler toute la population locale. Et d'ailleurs, la population locale a fini par rejeter, par vomir cette population juive de Palestine. C'est le premier exil. Bien sûr, on reconnaît David, on reconnaît Salomon, mais c'était deux petites choses, deux petites entités historiques que ces deux royaumes. Donc, les Juifs sont exilés. Et à partir de ce moment, ces Juifs deviennent des Judéens, et c'est des habitants de Judée, ce qui est historiquement vrai. Yehoudim, ce sont les habitants de Yehuda, de la Judée. Donc, et qui est le responsable du retour et aussi de la création de ce nouveau texte perverti, mais c'est Ezra. C'est Ezra qui était envoyé par les Perses pour mettre un peu d'ordre, n'est-ce pas, en Palestine après la restauration du temple. Et c'est donc Ezra qui a créé cette nouvelle religion, en fait. Et Ezra, il faut savoir que Ezra vraiment suscite plus qu'une haine, une hostilité assez réelle et forte dans tous les textes musulmans sur le judaïsme. Donc les Juifs reviennent, encore une fois, ils ne font pas souche, et puis ils sont chassés, cette fois, par les Romains, et puis Donc, et c'est la dispersion. Et là, on arrive à l'élément essentiel. Donc, ces juifs qui n'ont jamais fait souche, ils vont commencer à disséminer leur religion. Et donc, et notamment dans la péninsule arabique, et les juifs des pays arabes, ce sont des arabes de confession. Ils vont faire la même chose dans tous les pays méditerranéens. Les juifs d'Afrique du Nord, ce sont des berbères de confession juive. Les juifs ashkénazes, ce sont des khazars de religion juive, exactement comme dira notre ami Zand. Et les juifs ashkénazes, les juifs allemands, ben, ce sont des germains de religion juive. Donc, il n'y a pas de peuple juif. Ce peuple juif n'a jamais pu exister. Et donc, ce que nous avons, c'est une religion juive. Une religion juive qui, elle, existe, mais cette religion juive a les traits culturels des peuples dans lesquels les juifs de religion ont vécu. Et c'est la position arabe. Et c'est pourquoi j'imagine que M. Netanyahou aura bien du mal pour convaincre les Palestiniens de changer de population. Donc, le seul dénominateur commun entre tous les juifs, c'est la religion. Et il n'y a pas d'idée de peuple juif. Maintenant, revenons à l'histoire juive telle que nous, historiens, nous la considérons. Cette histoire juive, elle nous apparaît en tout cas que pour toutes les générations juives, au moins jusqu'à la Révolution française. Et la Révolution française, c'est véritablement un point essentiel. La question de savoir qui est juif ou qu'est-ce que le judaïsme, est-ce une religion ou un peuple, cette question ne se posait pas. Ne se posait pas pour les juifs eux-mêmes, ni pour les non-juifs, et surtout pour les chrétiens. Parce que pour tous, pour les juifs, être juif, traditionnellement, c'est observer un certain nombre de rites juifs, et d'autre part, c'est avoir conscience d'appartenir à un groupe qui se faisait appeler Am Israël, le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans tous les textes juifs, le héros, n'est-ce pas, c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, il fait remonter ses origines à Abraham, Isaac et Jacob, et des patriarches qui sont aussi mythiques que Vercingétorix, n'est-ce pas, pour les Français. Donc, n'ayons pas honte pour le dire. Mais ce peuple a aussi pour particularité de se projeter à l'infini dans le passé, à un point tel, comme le renseigne la Haggadah de Pessah, que nous lirons tous lundi soir prochain, que chacun de ses membres se doit de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ou bien, comme il est dit, tu raconteras à ton fils, ce n'est pas seulement nos ancêtres que le Saint béni a délivré de l'Égypte, mais c'est nous aussi qu'il a délivré de l'Égypte. Et en fait, c'est toute l'essence même de cette appartenance. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la religion, mais c'est aussi appartenir à ce passé, appartenir à ce groupe. Donc, c'est l'adhésion à un dogme et appartenance au groupe. Et ces deux éléments sont dissociables dans la vision de soi des juifs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, quand quelqu'un se convertissait au judaïsme, on l'acceptait, mais on lui ajoutait comme patronyme ou comme nom de famille Ben Abraham ou bien Israël. D'accord ? C'est pour signifier qu'au judaïsme, on n'adhère pas seulement comme on adhère à l'islam ou au christianisme, mais que par cette conversion, on fait partie du peuple d'Israël. D'accord ? Et comme vous savez, traditionnellement, même symboliquement, c'est le fameux minyan de la synagogue. Et ce nouveau converti, il devient un membre titulaire, si on peut dire, du peuple juif. Et c'est d'ailleurs pourquoi, comme les juifs ont... C'est ce qui explique pourquoi les juifs ont été de piètres missionnaires, parce qu'ils ont toujours su qu'adhérer au judaïsme, ce n'est pas seulement adhérer à un dogme, c'est pas seulement adhérer à une religion, c'est aussi faire partie d'un peuple. Et cette notion de peuple est telle que même le terme même de judaïsme n'existe pas dans le judaïsme, si je puis dire, et que le terme de judaïsme, c'est un néologisme qui a été créé très récemment, Et si vous lisez l'hébreu et que vous avez la chance de consulter l'énorme encyclopédie hébraïque, pas encyclopédie judaïque, mais seulement encyclopédie hébraïque, qui est éditée en hébreu, et qui a comme rédacteur et éditeur les plus grandes sommités des études juives, comme notamment Yehoshua Leibowitz, vous verrez par exemple que la rubrique juif ou judaïsme, les rédacteurs préfèrent renvoyer le lecteur à Am Israël. Ce qui montre vraiment combien cette notion de Am Israël, de peuple d'Israël, est constitutif notre vision du monde. Cela dit, quand on parle d'un peuple juif, il n'implique pas forcément que les juifs ont une ascendance biologique commune, ou qu'ils descendent tous, racialement parlant, d'un même ancêtre. Et ce n'est pas des gens comme vous, membres de la loge Sigmund Freud, des lecteurs assidus de Moïse et le monothéisme, que je vais apprendre, que nous ne sommes pas tous des descendants, n'est-ce pas, des esclaves sortis d'Égypte avec Moïse. Nous ne sommes pas tous, hélas, des rejetons des habitants de Samarie, Judée et Galilée, qui ont été débordés par Nabucodonosor, Titus, Adrien. Bien sûr, certains savants de nos jours nous disent, ces derniers temps, en tout cas, que nous avons tous quelques gènes ou des chromosomes communs. Mais nous, historiens, tout comme d'ailleurs les rabbins, nous n'avons pas attendu M. Shlomo Zand pour savoir que du sang khazar, cosaque, berbère, arabe, espagnol, portugais, français, polonais, germanique, slave et même antisémite coule dans nos veines. N'en déplaise aux racistes. Et les Juifs, donc, pour reprendre le beau poème de Yehuda Amichai, ne sont pas un peuple historique, je continue ce poème, ni même un peuple archéologique. Les Juifs sont un peuple géologique, avec des failles, des effondrements, des couches sédimentaires et de la lave incandescente. Leurs annales doivent être mesurées à une échelle de grandeur différente. Et c'est moi qui ajoute, avec aussi une temporalité différente. Une histoire hors du temps, pour ainsi dire, avant l'avènement du sionisme et le retour dans l'histoire. Car, et cette fois je cite Amos Oz dans un livre tout récent que je vous conseille de lire, « Juifs par les mots », n'est-ce pas ? Amos Oz, c'est dans cet essai qui explique que la seule continuité juive est celle des mots, jusqu'au moment où les mots mêmes ont cessé d'exister. Et à votre cause, dans ce livre magnifique, il cite un poème de Dan Pagis, un autre grand poète israélien, qui a écrit un beau poème, écrit au crayon dans un wagon plombé, bien sûr, vous comprenez de quoi il s'agit. Ici, dans ce wagon plombé, je suis Ève, avec Abel, mon fils. Si vous voyez mon autre fils, Cain, fils d'Adam, dites-lui que je... Et les mots s'arrêtent. C'est la chose. Cela dit, comme tous les peuples anciens, les origines des Juifs sont difficiles à cerner et relèvent du mythe, aussi bien que de l'histoire. S'il n'est pas toujours aisé de suivre les développements historiques, par exemple, rapportés par la Genèse, il n'est pas indifférent de souligner que le peuple d'Israël, en tant que tel, apparaît ou est mentionné pour la première fois dans une source non biblique, dans une inscription égyptienne, que l'on peut d'ailleurs trouver au Louvre, n'est-ce pas, une inscription égyptienne datant du XIIIe siècle avant Jésus. Et cette inscription relate les victoires du pharaon Menephtah sur ses voisins, dont Israël, qui, je cite cette inscription, est anéanti, sa semence n'existe plus, et Hourou, c'est le nom de la Palestine dans les textes égyptiens, est en veuvage devant l'Égypte. Donc, des Israélites, des habitants des Israélites, membres de ce peuple d'Israël, vivaient en Canaan, en groupe organisé, déjà au XIIIe siècle avant notre ère. Que sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Sont-ils des descendants des anciens Hébreux ou ceux d'autres lignées cananéennes? On ne sait pas grand-chose. Une autre question sans réponse, sont-ils des restes de ces fameux Israélites sortis d'Égypte avec Moïse? Et ce qui est aussi intéressant, le texte biblique, quand le texte biblique parle de la sortie d'Égypte, il parle des Israélites sortis avec Moïse d'une peuplade de 600 000 personnes. Bien entendu, 600 000 personnes, c'est un peu trop, c'est un chiffre fantaisiste. Mais composé, la Bible dit elle-même, composé de toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens, et dans la tradition hébraïque, on précise que c'était probablement des Hébreux, mais aussi qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens avec eux, d'accord, des esclaves, sûrement. Donc, même la sortie d'Égypte a été, même les Juifs de la sortie d'Égypte ne sont absolument pas homogènes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les historiens ne croient pas dans le récit de la Bible suivant lequel les Israélites sont venus, ils ont occupé, conquis militairement la Palestine. En fait, aujourd'hui, nous croyons que ces Juifs de Palestine ou ces Israélites de Palestine se sont formés après, à la suite d'un long processus de gestation sociale, politique, religieuse. Et dans ce processus de gestation, ils ont bien sûr assimilé, ils ont absorbé d'autres éléments, des éléments cananéens et des étrangers pour se donner finalement une identité commune. Donc c'est un long processus et je crois que tous les historiens sont d'accord. D'ailleurs, même les exégètes rabbiniques disent la même chose. Donc l'hétérogénéité ethnique est à la base même du peuple juif et cette hétérogénéité va persister tout au long de l'histoire des juifs jusqu'à l'avènement du christianisme et puis de l'islam. Et cet état de fait a agacé plus d'un de nos sages, plus d'un des dirigeants juifs, dont le fameux Ezra que nos amis musulmans aiment tant. Et c'est Ezra, lui, qui au 5e siècle, ce sera probablement le premier, en venant s'installer en Judée, avec ses exilés de retour de Babylone, c'est lui qui, le premier, a voulu faire des différences entre les composantes de la population de la Judée, et à vouloir isoler les Babyloniens du reste de la population. Et donc c'est lui, Ezra, qui, le premier, a voulu donner une définition ethnique des Juifs, mais sa définition ethnique a eu beaucoup de mal à s'imposer, et elle a suscité beaucoup d'hostilité, nous le savons, et notamment de la part du grand prêtre, et pas seulement du grand prêtre, dans le livre des Chroniques, et ainsi que dans le livre de Zacharie, qui sont de cette même époque, il y a d'autres définitions qui ne concordent absolument pas avec celle d'Ezra et celle de Néhémia, qui était son successeur. Donc, c'est pour, au cours de cette période perse qu'on a voulu plus ou moins donner une définition ethnique. Mais après les Perses, c'est les Grecs. Et là aussi, contrairement à une image que nous en avons, et notamment à la suite de la fête de Hanouka, qui a été instaurée au milieu du 2e siècle avant Jésus, et cette fête de Hanouka qui a résulté de la confrontation entre les Maccabées ou les Asmonéens et les Grecs de Syrie. Contrairement donc à cette image, l'hellénisme a exercé une immense influence sur les Juifs et notamment sur la langue hébraïque. Sachez que beaucoup de termes de la langue hébraïque sont d'origine grecque. Ils sont d'origine grecque, par exemple, nous connaissons tous le nom de Rophé, médecin, Troufa, c'est des noms grecs. Et si on passe en revue l'hébreu de la Mishnah, certains spécialistes estiment qu'au moins 30% du vocabulaire hébraïque de la Mishnah est d'origine grecque. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les premiers à accepter cette influence grecque, c'était les familles des notables. Et même, d'ailleurs, on le voit assez rapidement, le grec va remplacer l'araméen comme langue vernaculaire des Juifs, et les Juifs vont commencer à porter des prénoms grecs comme Jason, Antigone, Ménélas, Aristobulos, etc. Et même de grands rabbins, comme de grands rabbins, donc, vont aussi porter des noms grecs, ou même le grand Cohen, le prêtre Antigone de Socho, et Jason aussi vont donc porter des noms grecs. Et probablement, plus que de tout autre exemple, la meilleure illustration de cette influence grecque est la traduction de la Bible en grec. C'est cette Bible en grec qui montre à quel point les Juifs ont été hellénisés. Et à partir de cette Bible en grec, n'est-ce pas, il y aura plus tard la Bible des Septante, il y aura l'Ancien Testament pour le chrétien. Et de toutes les communautés juives, la plus hellénisée, c'était sûrement la communauté d'Alexandrie, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, l'influence grecque est très variée et multiforme. Ça ne veut pas dire qu'elle a été acceptée par tout le monde, mais c'est une donnée. Et peut-être ce qui illustre encore mieux cette influence, c'est la nature du royaume asmonéen qui a été créé immédiatement après la libération de Jérusalem et le départ des Grecs. Une fois au pouvoir, les Maccabées, ou les Asmonéens, vont créer un véritable royaume grec en Judée. Les rois vont commencer, les rois juifs, n'est-ce pas, vont commencer à porter des noms grecs, Hyrcane, Alexandre, Aristobule, Antigone, etc. Ils vont aussi avoir des symboles de pouvoir grec, le diadème, la robe de pourpre, et puis jusqu'à aussi nommer une femme comme reine, Salomé Alexandra, qui va rester dans l'histoire la première femme à se voir conférer les attributs de monarque. Et donc, ça montre combien cette influence grecque était prépondérante. Et à cette époque déjà, c'est-à-dire à partir du 6e siècle, nous savons, du 6e avant Jésus, qu'il y a une diaspora. Et la diaspora est une donnée pérenne dans la vie juive. Donc la reconstruction du temple, du premier temple, n'a pas mis fin à la diaspora. Et à l'époque, à partir du 6e siècle, nous avons en fait quatre grands centres de peuplement juif dans le monde, en Mésopotamie, en Égypte, en Syrie et dans l'Asie mineure. Et à la fin du dernier siècle, avant notre ère, les Juifs sont disséminés dans tout le bassin méditerranéen et ils représentent, suivant certaines estimations, jusqu'à 10% de la population totale de l'Empire romain, soit 5 à 8 millions de personnes, dont 2 à 2 millions et demi vivant en Palestine. Et si l'on en croit, par exemple, Philon d'Alexandrie, qui a vécu au 1er siècle après Jésus, deux tiers des habitants d'Alexandrie étaient juifs, soit 1 million de personnes, une exagération, mais certains, d'après les spécialistes, il devait y avoir au moins 250 000 juifs à Alexandre au 1er siècle, à Alexandrie, pardon, au 1er siècle de notre ère. Comment ces communautés se sont formées? Selon toute vraisemblance, à partir d'un premier noyau originaire de Palestine, ça peut être des réfugiés, des captifs de guerre, des soldats, et au fil du temps, ce petit noyau va grossir à la suite d'un afflux constant de convertis de toutes origines. Et ce phénomène de conversion va se massifier après l'avènement d'Alexandre le Grand, lorsque les peuples méditerranéens vont s'ouvrir au syncrétisme oriental. Et c'est probablement, c'est sûrement aujourd'hui, nous le savons, que c'est dans ce milieu converti au judaïsme que le christianisme, par exemple, va prendre souche immédiatement, après la destruction du second temple. Et cette conversion se fait graduellement. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les judaïsants. Et puis, ces judaïsants qui deviennent après des craignants Dieu et qui commencent par respecter le Shabbat et aller à la synagogue. Et un exemple parmi d'autres de ces conversions assez massives, c'est la conversion du roi d'Adiabène aux confins de l'Arménie, n'est-ce pas, et de sa mère, la reine Hélène. Et cette reine, qui a été enterrée avec son fils à Jérusalem, son palais et son tombeau vont exister à Jérusalem, puisqu'ils seront rasés en 70 par les Romains lors de la destruction du temple. Des juifs aussi vivaient dans la capitale perse, où on a essayé aussi de créer un royaume juif, mais c'était un royaume juif qui a été mis en échec par les Parthes, peu de temps avant l'entrée des Romains en Palestine. En fait, toutes nos informations, une bonne partie de nos informations, nous la devons aux Actes des Apôtres. C'est un texte, n'est-ce pas, les Actes des Apôtres. Et à la suite de ce texte chrétien, il nous est possible d'établir une carte assez exacte de la diaspora juive au début de l'ère chrétienne. Donc, il y a les communautés que j'ai déjà mentionnées, mais des Juifs vivent déjà au 1er siècle en Grèce, à Rhodes, à Chypre, en Perse, en Afrique du Nord, en Cyrénaïque notamment, et puis bien sûr à Rome, et les premiers Juifs vivant à Rome, c'était des otages emprisonnés en Palestine. Donc, un peuple dispersé, et là où il se trouve, et c'est ce qui donne à ce peuple cette unité, les Juifs établissent un calendrier, mais comme un calendrier des fêtes, mais comme aujourd'hui, ce calendrier est établi suivant les Néoménies, les Rosh Chodesh, n'est-ce pas, proclamés à Jérusalem. Et donc, ces communautés si différentes acceptent sans rechigner de célébrer les fêtes juives, de célébrer même la fête de Hanouka qui a eu lieu, disons, qui marque un événement qui a eu lieu en Palestine et en Palestine seulement, ou bien la fête de Pourim, n'est-ce pas, encore autre événement historique qui a eu lieu ailleurs en Perse. Et c'est cette communauté rituelle, si on peut dire, qui a donné aux Juifs l'impression de vivre ou de constituer un seul peuple. Et il n'y avait pas que ces célébrations, il y avait par exemple l'obligation de pèlerinage à Jérusalem, à l'époque du Temple, ou à Pessah, Shavuot et Sukkot. Et puis aussi, les Juifs du monde entier devaient verser, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, un demi-shekel, n'est-ce pas, par adulte, pour le service du Temple. Et ce qui est intéressant, c'est que cette coutume, qui a commencé à l'époque des Asmonéens, va se poursuivre même après la conquête romaine, et c'est Jules César lui-même qui va permettre le versement de ce demi-shekel. Donc, grâce à tous ces liens, les Juifs de la diaspora et de la Palestine ont le sentiment de faire partie d'un même peuple, malgré leurs différences ethniques et culturelles. Ils partagent la même loi, ils observent les mêmes prescriptions religieuses et ils orientent leurs prières vers Jérusalem. Et c'est vrai qu'il y a eu une tentative de créer un temple alternatif à celui de Jérusalem. Cette tentative a eu lieu en Égypte, c'est le temple de Léontopolis, à l'époque précisément des Grecs en Palestine, mais cette tentative a tourné court et Jérusalem est resté le temple unique vers lequel donc tous les Juifs, tournaient leur regard et leur prière. Et cela ne veut pas dire que les Juifs parlaient la même langue, ils parlaient tous des langues différentes, mais tous continuaient de comprendre à des degrés divers l'hébreu. Après la destruction du temple, du second temple, les Juifs vont accuser partout une forte baisse numérique, mais ils vont continuer à poursuivre leur lente dispersion à travers le monde et parvenir à des contrées reculées comme l'Inde et la Chine. Et comme par le passé, c'est croissance naturelle, c'est l'émigration, mais aussi le prosélytisme. Bien sûr, un prosélytisme qui n'est pas aussi dynamique qu'avant l'avènement du christianisme et puis avant l'avènement de l'islam, mais on sait par exemple que les juifs chinois, c'était des chinois de confession juive, et nous avons par exemple à Jérusalem les restes d'une synagogue, la synagogue de Kaipei, n'est-ce pas, qui et ces juifs de Chine utilisaient des caractères chinois comme d'autres utilisaient des caractères judéo-arabes et ainsi de suite. Et donc, c'est ainsi que au début, après la destruction du temple, le judaïsme va pénétrer la Chine, l'Inde, les Baléares, arriver en Arménie, et sûrement aussi dans le pays khazar, ou encore en Germanie, à Cologne notamment, où l'on a trouvé des restes, des vestiges de présence juive. Mais nulle part il y a eu des conversions massives, nulle part, sauf, nous avons deux exemples, c'est la conversion du royaume Himyarite de Yémen, n'est-ce pas, peu de temps avant l'avènement de l'islam, et c'est ce qui explique, là, pourquoi dans toutes les études génétiques sur les juifs, vraiment les seuls juifs, la seule communauté juive qui ressemble sur le plan génétique aux populations aux populations environnantes, c'est le judaïsme yéménite, n'est-ce pas? Parce que c'est un judaïsme né d'une conversion. Et puis encore, nous avons le cas des Éthiopiens, les Éthiopiens, les Falachas. C'était aussi des Amharites qu'on a exclus de l'église Amharite et on les a affublés du titre de juifs. Et ils vont finir finalement par le devenir, par la force des choses. Donc c'est ce judaïsme divers, culturellement et ethniquement, qui va subir beaucoup de drames, donc qui va traverser l'histoire de l'Europe, et là bien sûr je ne vais pas vous raconter toute cette histoire. C'est ce judaïsme qui sera indésirable à partir de 1492 en Espagne, indésirable dans la plupart des villes d'Allemagne et d'Autriche, mais malgré tout, à ce moment-là, les Juifs apparaissent en Europe orientale, et contrairement à ce que soutient Zand, ces Juifs d'Europe orientale venaient en grande marché dans leur écrasante majorité d'Allemagne. Et on va les voir aussi apparaître, même sur le golfe de Guinée, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Et puis, avant, à l'aube des temps modernes, on va les voir aussi réapparaître en France et en Angleterre, où ils avaient été chassés depuis bien longtemps. Donc, c'est ce judaïsme des débuts de l'époque moderne qui va continuer à vivre, qui va garder sa diversité, aussi bien culturelle qu'ethnique et même religieuse, mais ce judaïsme continuera toujours à avoir conscience d'appartenir à un même groupe, qu'il s'agit du judaïsme ashkénaze, qu'il s'agit ou du judaïsme ladino, ou même des maranes, parce que séfarades et ashkénazes ont continué à se rencontrer au hasard des migrations et des expulsions. On oublie par exemple que la Hongrie, qu'une bonne partie du judaïsme ashkénaze était partie intégrante de l'Empire ottoman. Et donc, et juifs, ashkénazes et séfarades se rencontraient à Istanbul, à Salonique, à Smyrne, à Alep, Salonique, bien entendu, Jérusalem, Venise et ailleurs. Ces juifs, ashkénazes et séfarades s'enflammaient autour des mêmes utopies messianistes, et l'une des dernières, c'est bien sûr Shabbatai Tzvi, le mouvement sabbatéiste, et là nous avons des descriptions sur cet enthousiasme qui a marqué les communautés, qui a révolutionné les communautés de Tunis, de Hambourg, de Bordeaux, Amsterdam et ailleurs. Et puis aussi, ces communautés soi-disant différentes, ashkénazes et séfarades, ont essayé aussi de donner une certaine cohérence à leurs lois religieuses. Par exemple, les séfarades ont le Shulchan Aruch, n'est-ce pas, qui a été rédigé par Caro à Safed, mais la mappa du rabbin Isserles Ashkenaz, qui va servir en fait de structure au rite Ashkenaz, a été faite en rapport avec le Shulchan Aruch. L'un s'appelle d'ailleurs Shulchan, n'est-ce pas, Shulchan en hébreu, que vous savez, sur la table, et mappa, c'est la nappe. Ça veut dire c'est la nappe sur la table. Donc tout cela pour signifier combien ces juifs étaient, ou en tout cas tenaient à ce qu'il y ait une nette concordance entre eux et entre le rite. Et puis tous continuaient, aussi bien Ashkenaz que les séfarades, à entretenir les yeshivotes de Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Et donc, ils ont continué à échanger des hommes à échanger des livres, à échanger des idées. Et donc c'est ce qui leur donnait l'idée, c'est l'impression de constituer un même peuple. Sans, je voulais pas aussi, on ne peut pas aussi ajouter l'antisémitisme ou cette haine que les Juifs suscitaient d'un côté à l'autre de l'univers. Mais peu importe, ce qui fait cette conscience des Juifs, ce qu'ils avaient tous en commun, c'est donc cette communauté des textes, ce qui a fait dire déjà au IXe siècle à Saadia Gaon, l'un de nos plus grandes sommités, c'est « Nous, enfants d'Israël, sommes une nation par nos textes sacrés. » C'est ce que nous avons en commun, ce n'est pas notre sang, mais ce sont nos textes. Et cette conscience historique a été forgée donc depuis l'époque du Second Temple, autour d'une origine, non pas autour d'une origine biologique, mais autour de certaines idées. Et ces idées sont, on peut tout y trouver. On peut trouver des idées dans ces idées juives du nationalisme, on peut trouver de l'universalisme, de l'ethnisme, tout ce que vous voulez. Mais c'est cet ensemble qui fait donc des juifs un groupe conscient de ses origines et de son histoire. Cela dit, et c'est l'autre caractéristique de ce peuple juif, c'est un peuple ouvert sur l'univers, sur le monde. J'en ai parlé au sujet de relations avec le monde grec. Et c'est un peuple, nos idées ou les idées du judaïsme, ne croyez surtout pas que toutes ces idées descendent de Moïse en fait. Et c'est la force du judaïsme. D'un côté, il y a une discipline de fer à l'intérieur des communautés, un certain Baruch Spinoza. On a eu quelques effets de cette intolérance, mais dans le même temps, les Juifs sont ouverts aux influences étrangères. Et c'est cette ouverture qui a permis un enrichissement du judaïsme à travers les âges. Et pour revenir à ce livre, cette ouverture du judaïsme aux cultures ambiantes est certainement la plus frappante par rapport à l'islam. En fait, le judaïsme a énormément puisé dans l'islam, et on peut même parler de métamorphose culturelle du judaïsme au contact de l'islam, et des pans entiers de la culture juive, qu'il s'agisse de la liturgie, qu'il s'agisse de la linguistique, ou même de la pensée, de la philosophie juive, sont nés au contact du judaïsme avec l'islam. Et là aussi, la force du judaïsme, c'est d'emprunter, mais de transformer, de modifier ces emprunts pour créer des concepts nouveaux lui servant de formuler des contenus spécifiquement juifs. Donc c'est une civilisation qui a toujours été largement ouverte sur le monde, tout en restant fidèle à elle-même. Et cette continuité historique du judaïsme a été assuré par la transmission intergénérationnelle des textes. Dans le judaïsme, l'importance de la transmission du père à son fils, d'un maître à son élève. Et l'une des injonctions du Talmud les plus connues, c'est « Assez les haraves, choisis-toi un maître ». Toute personne, tout juif qui se réveille devrait avoir un maître. Ou bien encore l'autre injonction, « Tu raconteras à ton fils ». De génération en génération, Midor Vador. Et ce sont véritablement des illustrations de cette transmission, de cette continuité textuelle de génération en génération. Et d'ailleurs, dans le folklore juif, tout le monde sait que l'enfant commence à apprendre l'hébreu à partir de 3 ans. Et on avait souvent une tradition très, très connue, on enduisait les lettres. Les lettres de l'alphabet hébraïque avec du miel, n'est-ce pas, pour que l'enfant juif aime, disons, qu'il aime le texte qu'il lit, il le croque ce texte, n'est-ce pas, qu'il lit, si on peut dire. Et donc, ce n'est pas seulement un enseignement, une transmission mécanique, mais aussi une sorte de transmission avec amour du texte. Donc, on n'est pas un peuple historique, pour reprendre Amichai, on est probablement un peuple textuel, si vous voulez. Donc, textuel. Et d'ailleurs, pour revenir à notre ancêtre Moïse, Moïse, chez nous, il n'apparaît pas sous le nom de Moshe Ranavi. Moïse, dans la tradition juive, c'est Moshe Rabbeinu. Je traduis littéralement, c'est Moïse, notre maître. D'accord. Et c'est parce qu'il a assuré la continuité textuelle du peuple juif. Et d'ailleurs, dans Pirkei Avot, le livre des sages, quand on veut parler de cette continuité, alors j'imagine que plusieurs parmi vous connaissent ce texte, on explique que Moïse a reçu la Torah du Sinaï, puis il l'a transmise à Josué, n'est-ce pas ? Après Josué, aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée, et puis c'est une chaîne, n'est-ce pas, une lignée de maîtres prestigieux qui, parfois, dans leur impertinence, vont jusqu'à défier Dieu sur le sens véritable de telle ou telle sentence. Donc, en tant que peuple géologique, pour reprendre l'image d'Amichai, les Juifs ont connu aussi des failles et des effondrements sans nombre, et des pans humains du peuple juif ont disparu au fil du temps. D'après les spécialistes, en fait, la moitié des Juifs ont disparu au cours du seul Moyen-Âge, sous l'effet conjugué de massacres, de guerres, des épidémies et des conversions, comme au temps des croisades en Rhénanie, sous les Almohades au Maghreb, ou encore dans la péninsule ibérique après avec l'Inquisition. Ces marins ont gardé leur judaïsme parce que, entre autres, parce que les fanatiques espagnols, gardiens de la ligne Piesa des Saint-Grès, les ont obligés à se marier entre eux. Et d'une certaine manière, on peut dire que ces marins que l'on va retrouver en Amérique, que l'on va retrouver en Hollande, dans la France de Bordeaux, etc., ces marins qui étaient des juifs sans savoir et sans synagogue, qui n'avaient qu'une sorte de sentiment d'appartenance au judaïsme, ces marins sont d'une certaine manière, ils ont préfiguré la devise, ils ont préfiguré le juif moderne. C'est ce juif qui est juif chez lui à la maison et goy dehors, n'est-ce pas, pour reprendre l'expression de Lev Gordon. Un être double qui dissocie le privé et le public, solidarité ethnique et communautaire, et qui continue à déconstruire à l'infini les composantes de son identité religieuse. Et ce sont les marins qui furent, en France notamment, les premiers à applaudir à l'émancipation, cette émancipation qui a été mise sur rail d'abord en Autriche, puis en France, n'est-ce pas, et avant d'être traduit dans les faits par Napoléon et le grand Sanhédrin. Et c'est ce moment-là où commence le grand tournant de l'histoire juive. Le moment à partir duquel les Juifs ont commencé véritablement à se poser la question « Mais qu'est-ce qu'être juif ?» Et puis, la réponse sera différente selon que l'on habite en Europe occidentale, en Europe orientale ou dans les pays musulmans, et selon que l'on soit agnostique ou croyant, traditionnaliste ou orthodoxe. Une réponse en fait à trois voies. Vous avez des juifs par religion seulement, d'autres qui sont aux juifs sur le plan ethnique ou national seulement, et qui excluent toute observance religieuse. Vous les voyez, ces juifs, ils remplissent encore tous les kibboutzim israéliens. Et avant, c'était les juifs du Bund, les juifs marxistes, n'est-ce pas, du mouvement révolutionnaire socialiste bundiste. Et puis, vous avez la troisième catégorie de juifs alliant des critères ethniques et spirituels. Et le dosage exact entre ces deux ingrédients étant laissé au gré des circonstances historiques et des personnes. Chez certains, disons pour simplifier, chez les juifs français, anglais, allemands jusqu'à la Shoah, ces juifs émancipés de la première et la seconde génération, on avait répudié toute notion de particularisme juif à caractère ethnique ou national. À partir du Sanhédrin napoléonien, les rabbins, les intellectuels et les notables consistoriaux se sont employés à inventer en fait de toutes pièces un nouveau judaïsme, en réformant la tradition juive observée pendant des siècles par leurs prédécesseurs, en introduisant dans le culte certains usages des églises chrétiennes, comme l'orgue à la synagogue, ou le report des offices du Shabbat du samedi au dimanche. Dans le même temps, ils ont élagué de la religion juive toutes ses composantes nationales, ni laissant intact que ses seuls préceptes moraux et universels dont on trouvait de semblables dans la religion chrétienne dominante. Ce faisant, ils ont proclamé urbi et orbi que le peuple juif a cessé d'exister. Depuis la destruction du temple, que les temps messianiques et le retour des juifs à Sion n'avaient plus de raison d'être, et puis jusqu'à proclamer, par exemple, que la terre promise, c'est la France, bien sûr. Donc, pour tous ces juifs émancipés, le judaïsme pouvait mourir de sa belle mort, et certains croyaient d'ailleurs que les juifs allaient disparaître exactement comme les Phéniciens. Les Phéniciens qui ont un jour fermé leur comptoir et puis se sont assimilés. Et pourtant, et c'est là un grand mystère de l'histoire juive, au moins de l'histoire des juifs de France, c'est au sein de ce judaïsme français qui est le plus assimilé d'Europe et qui était censé ne plus croire en l'existence d'un peuple juif, qu'est née en 1860 une association qui va arborer fièrement le nom d'Alliance israélite universelle. Et cette association va même clamer haut et fort l'union de tous les Israélites libres pour émanciper les Israélites opprimés dans le monde. Une association qui croit malgré tout en l'existence d'un collectif juif. Et bien sûr, cette proclamation n'avait pas l'adhésion de tout le monde, en France et en Allemagne, et même Bernard Lazare, qui avant de se consacrer corps et âme à la défense du capitaine Dreyfus, pour devenir même le compagnon de Théodore Herzl, même Bernard Lazare tirait en 1890 à boulet rouge sur l'Alliance israélite. Je cite Bernard Lazare, c'est une citation, c'est un texte qui est passionnant d'ailleurs. « Que m'importe à moi, Israélite de France, des usuriers russes, des cabaretiers galiciens prêteurs sur gage, des marchands de chevaux polonais. Je veux insulter personne, n'est-ce pas? C'est que... Il n'y en a plus. Des revendeurs de Prague et des changeurs de Francfort. En vertu de quelle fraternité irais-je me préoccuper des mesures prises par le tsar envers des sujets qui lui paraissent accomplir une œuvre invisible? Qu'ai-je de commun avec ces descendants des Huns? Grâce à ces hordes avec lesquelles on nous confond, on oublie que depuis 1000 ans, nous habitons la France 2000 ans comme des Francs. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, est arrivé l'affaire Dreyfus et M. Bernard Lazare va se retrouver aux côtés de Bernard, du capitaine et devenir vraiment sioniste. Lazare, bien sûr, aurait pu parler de Crémieux. Crémieux, ministre de Gambetta, député, n'est-ce pas? Crémieux qui a tellement œuvré pour les juifs des pays d'Orient lors de l'affaire de Damas en 1840. Crémieux qui était le grand défenseur des juifs d'Algérie. Et Crémieux qui va bien sûr lui-même accorder ou octroyer la nationalité française aux juifs d'Algérie. Donc Crémieux, si Crémieux l'a fait, c'est parce que quelque part, n'est-ce pas, que malgré tous les discours, n'est-ce pas, on pensait qu'il existait malgré tout un collectif juif, un peuple juif. Cette approche franco-israélite n'était pas partagée par tous les juifs. Elle n'était surtout pas partagée par les juifs vivant dans des empires multiethniques, comme les juifs de Russie et d'Autriche-Hongrie. Et il faut le souligner, c'était le gros du peuple juif à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à la révolution bolchevique. L'écrasante majorité des juifs ne vivent pas en France ni en Angleterre, mais là-bas, en Pologne, en Russie, en Ukraine. Et pour ces juifs d'Europe orientale, c'était une aberration de croire que le judaïsme est une religion seulement, parce qu'ils vivaient dans un monde où l'on était polonais de nationalité et polonais de religion, je peux dire, à savoir catholique, où l'on était serbe de nationalité et orthodoxe. Et un grec qui se convertit à l'islam ne cesse d'être grec. Et donc, pour les juifs d'Europe orientale, qui avaient aussi leur langue, le yiddish, tout comme les Polonais ou les Ukrainiens avaient la leur, le modèle français était une aberration, et pour eux, le modèle ethno-religieux, n'est-ce pas, de l'identité ou de l'existence d'un peuple juif était une évidence même. D'autant que, à cette fin du XIXe siècle, on a assisté à une immense activité intellectuelle, scientifique et artistique suscitée par la Haskalah et le mouvement des Lumières juives. Et à la suite de ces travaux, des travaux immenses de ce mouvement de la Scala, on avait l'impression que le judaïsme n'était pas seulement une religion, que c'était une véritable civilisation. Et qu'on ne pouvait en aucune façon réduire le judaïsme à sa seule dimension religieuse. Et c'est ainsi que la Scala, qui va ouvrir ou qui a ouvert des champs infinis, et c'est à Scala, il faut le souligner, elle a été l'œuvre de juifs laïcs et non pas de juifs religieux, c'est à Scala qui va multiplier les publications scientifiques sur le judaïsme, va finir par faire admettre, même par des agnostiques juifs, l'idée d'une continuité historique juive, diverse et toujours la même, et qui, à la limite, n'a même pas besoin d'un support religieux pour exister. Un point de vue que, bien sûr, vont rejeter les religieux traditionnalistes, qui imaginent mal qu'on puisse être à la fois juif de nationalité et athée de confession. Il n'empêche, c'est sur cette identité nationale juive que repose depuis des décennies toute la culture israélienne moderne. Donc, deux grands courants idéologiques nés tous deux de la Scala vont continuer à s'affronter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au sein du monde juif. D'un côté, vous avez un courant spiritualiste basé sur une définition strictement confessionnelle de l'identité juive et qui va prôner l'intégration complète des juifs dans les sociétés qui les entourent. Et en second lieu, vous avez un courant nationaliste, plus exactement nationalitaire, qui n'est pas forcément sioniste. Je vous ai parlé tout à l'heure des marxistes bundistes, n'est-ce pas? Et ce courant nationaliste va se décliner avec ou sans support religieux, et en se revendiquant d'un peuple ou d'une nation juive qui rend sa force de sa continuité historique et de son interaction infinie avec les peuples qui les entourent. Pour les juifs d'Europe orientale, ce n'était pas vraiment une révélation, puisqu'ils ont toujours vécu dans cette idée qu'on ne peut pas être juif de religion et de religion seulement. Mais pour les juifs occidentaux, c'était une véritable redécouverte, notamment les juifs occidentaux qui laïcs. Et c'est pourquoi Herzl, par exemple, au lendemain de la dégradation du capitaine Dreyfus, s'est exclamé « Nous sommes un peuple ». Et puis, pour un juif polonais, cette exclamation n'avait absolument aucun sens extraordinaire. Et puis, c'est ce même Herzl, là, si seule l'oppression est ajoutée, seule l'oppression nous rejette vers nos anciennes origines, seule la haine environnante fait de nous des étrangers. Ou bien des juifs, tout court, si l'on tient à rejeter cette phrase, si l'on tient à ramener cette phrase à la fameuse thèse de Jean-Paul Sartre dans les réflexions sur la question juive. Bien sûr, bon nombre d'Israélites français s'est retrouvé aussi dans les propos de Sartre, même après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord et la guerre de Six Jours, qui a changé les perceptions, cette guerre de Six Jours qui a changé aussi la perception de beaucoup d'Israéliens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Michel.